Rolling Stones raconté comme votre vie même. Un feuilleton de François Bon. 6. Andrew Lou Beholden.
Comment on décroche un producteur et comment on en trahit un autre? Qu'on enregistre enfin son premier disque et qu'on vous envoie en tournée sur les routes de l'Angleterre.
Rolling Stones, deuxième semaine. 40 ans d'histoire en 20 fois 20 minutes, si on le fait dans l'ordre, cela pourrait devenir la seule lecture d'un calendrier. Cela donnerait, pour cette fin d'année 1963...
And make way now for the stars of our show, the Rolling Stones!
5th of November 1963, Carven Club, Liverpool, Lancashire.
Dans la première semaine, on a laissé se tisser des fils séparés. Brian, Bill Wyman, Mick Jagger et Keith Richards. Et comment, grâce à Alexis Corner, ces fils se sont rejoints. Ils habitent toujours à Haddit Grove, qu'on a visité, et il y a eu leur premier vrai tremplin, au Station Hotel Richmond. Et l'obstacle, pourtant. On est refusé à la radio. On n'a pas enregistré de disque. L'accélération va être brutale. Elle inclut pourtant beaucoup de hasard. Premier élément du hasard, Dick Rowe. Non ? Vous ne connaissez pas Dick Rowe ? Il faut revenir à l'histoire, non pas des Rolling Stones, mais des Beatles, 2 ans plus tôt, quand le fils du marchand de disques de Liverpool, Brian Epstein, avait voulu se charger des affaires du groupe débutant. Il avait pu leur obtenir une audition chez Decca. On a roulé toute la nuit, sous la neige, sans dormir... Et leur matériel de concert, réglé dans le suraigu pour passer le bruit, ne convenait pas au studio. On leur prête du matériel inconnu. Bref, les Beatles ratent l'examen. Dick Rowe est le responsable de Decca, qui le leur signifie. Et c'est EMI qui décroche la poule aux œufs d'or. Dick Rowe, chez Decca, reste celui qui a raté les Beatles. Samedi-là, il est à Liverpool, membre avec George Harrison d'un jury pour un tremplin de groupes locaux. La musique n'est pas terrible, on parle. Rowe revient sur cette audition des Beatles. Harrison lui répond qu'ils ne lui en veulent pas, ils avaient joué tellement mal. Et puis, on parle de ce qu'on écoute, et Harrison lui dit que justement, la semaine précédente, ils ont rencontré un groupe, les Rolling Stones, qui certainement... Harrison se retourne, Dick Rowe est déjà parti. Il court vers la gare où il veut attraper le train de nuit. Dès le lundi matin, il est au téléphone. Qui peut être l'agent de ce groupe, les Rolling Stones? Deuxième élément, bien plus bref, le décès du père de Giorgio Gomelski. Il part en Suisse, devra rester absent 3 semaines. Vous suivez. Troisième élément, Andrew Lug Holden. Un jeune homme compliqué, Andrew. Fils d'un aviateur américain dont l'avion s'écrasera sur l'Allemagne et d'une mère anglaise, il porte le nom de son père et de sa mère. En pension dans une école pour orphelins de guerre, il s'avère que le directeur détourne les fonds, l'école ferme et Andrew, à 16 ans, cesse ses études. Il est à Londres, dans Soho. Il se présente chez Mary Quant, la vendeuse de la mini-jupe. Il fait le thé, porte les colis, mais il est au cœur de ce qui change. Puis serveur au Flamingo, un des clubs qui font place à la guitare électrique. Après, il part en France, vit sur la Côte d'Azur en aménageant des vitrines. Un type long et maigre, très blond, avec un léger strabisme. Quand il rentre en Angleterre, il intègre le monde du spectacle. Dans une agence d'impresario, il est chargé de suivre un chanteur de variété, Mark Winter, de qui il apprendra l'importance de la mèche et des soins apportés aux cheveux. Puis dans une des principales agences, il organise des tournées de plage. Il apprend, se fait des contacts. À Soho, il fait la connaissance de Phil Spector, qui roule Rolls-Royce et a inventé le Spector Wall of Sound. Spector lui donne des conseils. Par exemple, quand on signe un groupe, s'assurer que la propriété des bandes magnétiques revient à l'agent et pas au groupe, ni à sa maison de disques. Andrew a trouvé son modèle. Reste à trouver un groupe. C'est Love Me Do, le premier succès des Beatles. Il s'embauche chez Brian Epstein, qui a besoin de renfort. Mais Epstein ne délègue rien. Et à peine si Andrew croisera le groupe, il décide de rouler seul. Il se trouve que Giorgio Gomelski avait convaincu un journaliste du Daily Mirror de venir un dimanche à Richmond. Ce journaliste y va. Et le lendemain soir, au pub, il parle des gens qui dansent torse nu sur les tables, de la foule en sueur, des musiciens qui jouent plus fort que tous les autres. Andrew prend note. Andrew décide d'aller écouter les Rolling Stones. Il y est le dimanche suivant. À l'entracte, Brian le présente à Gomelski. Andrew ne veut pas de Gomelski, c'est à Brian seul qu'il propose un rendez-vous. Mais qu'a-t-il à proposer en échange? Le génie d'Andrew, c'est d'aller vite. Il s'invite chez Eric Easton, un impresario sage, de 10 ans plus âgé qu'eux, et lui demande à disposer pendant 1 heure de son bureau. Il y reçoit Brian comme s'il était chez lui. Et il propose à Easton, le dimanche suivant, de se rendre ensemble à Richmond. Pourquoi ne pas s'associer pour inventer le groupe? Le dimanche suivant, si Gomelski avait été là, il se serait méfié de la présence d'Easton, qu'il connaît. Mais Gomelski est en Suisse. Le lendemain matin, alors qu'on attend pour le lundi après-midi la visite de Brian et de Mick, on reçoit ce coup de téléphone de Dick Rowe, de Decca, à qui on a dit qu'Andrew connaissait les Rolling Stones et qu'Easton connaissait Andrew. Easton et Andrew créent immédiatement une société, Impact Sound. Et quand on propose aux Stones de signer contrat avec elle, aucun pour lui dire qu'elle date du jour même. Et si on leur propose le contrat, c'est qu'on leur dit avoir déjà un accord de Decca. Et on leur fait même cadeau de 100 livres cash, une fortune pour eux. Le soir, les 5 Stones fêteront ça au restaurant. Dira que si le train pour Richmond n'avait pas été direct, il ne serait jamais allé écouter les Rolling Stones. Andrew a désormais la main mise sur les Rolling Stones. Et Gomelski, à son retour, apprendra par lettre qu'il doit désormais en passer par Impact Sound pour ce qui concerne les Stones. Il ne pardonnera pas. Dès le surlendemain, on va acheter des costumes, de beaux costumes pieds de poule à col de velours noir. Andrew paye. Mais plus question de manger, de fumer, ni boire sur scène. Et puis, enregistrer un disque. Andrew a retenu la leçon de Phil Spector, tout dirigé. Mais à la fin de l'enregistrement, le technicien demande qui s'occupe du mixage.
I went, right, let's go. And the engineer said to me, what about mixing? I said, what's that? What the fuck is this? J'arrive, bon, on s'en va. Et le technicien qui me dit « Mais pour le mixage !» Je dis « Qu'est-ce que c'est ce truc-là »
Andrew ne savait même pas que ça existait. « Débrouille-toi, je reviens demain chercher la bande. » Le résultat est une catastrophe et Decca contraint le groupe à réenregistrer mais dans ses propres studios, avec les techniciens maison. Le résultat, c'est « Come On », un disque avec le chanteur en avant, la basse très discrète, un disque qui est le contraire de ce que souhaitent les Stones.
Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number.
Avec le premier disque, on décroche enfin un passage à la télévision. On a rendez-vous pour essayer un nouveau costume. Pour les 6 Rolling Stones, il n'y en a que 5. Oublie, Andrew les informe que Stu ne fait plus partie du groupe. Argument officiel, un pianiste, cela fait trop jazz. En fait, délit de bonne tête, une tête d'honnête homme, un physique d'écossais. Et complément, les Beatles sont 4, les Rolling Stones peuvent être 5. Mais à partir de 6, prétend Andrew, on ne se souvient plus des prénoms. Les autres s'inclinent. Plus tard, ils regretteront. Qui parmi le groupe, Brian ou Mick, Andrew a-t-il prévenu de l'exécution? On n'a jamais su. Il pense à tout, Andrew, même à supprimer du nom de Keith Richards le S de la fin.
You're still a full member of the group, Stu. You'll still get a sixth share, I promise you. Tu fais quand même partie du groupe. On partagera encore en 6, je te promets.
C'est ce que dit Brian à Stu, en même temps qu'on signe le contrat spécifiant que les parts du groupe sont divisées en 5. Ce qui est plus mystérieux, c'est que Stewart accepte. Il venait de démissionner de son travail, il prend la charge de Roddy. Bientôt, parce que Brian manque des concerts, il reprendra sa place au piano et ne la quittera plus. Come On connaît un petit succès, suffit à les lancer. Et c'est Eric Easton qui se charge de les programmer, non plus dans les clubs qu'on abandonne progressivement, mais la mode est à ses tournées d'un mois qui passe dans toutes les villes de l'Angleterre avec une affiche longue comme le bras. Une vedette tout en haut, les Everly Brothers, les Ronettes ou Jane Pitney. Ou une autre vedette connue, un peu moins mais à peine en second, Little Richard, Bo Diddley. Et ceux comme les Rolling Stones, les nouveau-nés du succès, pour la suite. Now I'm a man, I'm over 21. You better believe me, baby, I'll see you. We can have lots of fun. I'm a man. Oh. On joue 20 minutes, 5 morceaux. Mais on gagne enfin de l'argent. Et les héros qu'on n'aurait jamais imaginé voir de près, maintenant, on partage la loge avec eux. Comme dit Keith Richards.
Like going to rock and roll university. You've got the whole spectrum there. Comme aller à l'université du rock and roll. T'avais la gamme tout entière.
Par exemple, quand il parle de Jerome Greene, qui joue de l'harmonica pour Bo Diddley.
Even at that age, 19 or 20, you'd wake up and slap your face saying, you're working with Little Richard and Bo Diddley. 6 months before, we were thinking, if only I could hear him one time. And suddenly you're his friend and he goes asking me, where the hell is Jerome Greene? I'll go get him, Bo. Même à cet âge-là, 19 ou 20 ans, tu te réveilles et tu te fous une baffe, tu te dis, quoi, tu bosses avec Little Richard et Bo Diddley? 6 mois plus tôt, t'aurais pensé, ah, si seulement je pouvais l'entendre une fois. Et d'un coup, tu es son pote et il arrive en te demandant, bordel, où est ce Jerome Greene? Je vais te le chercher, Bo.
C'est pareil pour Charlie Watts, pareil pour Bill Wyman et bien sûr Mick Jagger.
I used to spend a lot of time with Little Richard. He was very friendly and a great hero. He used to teach me a lot. I would watch him every single night to see how he handled the audience. He was a great audience manipulator in the best sense of the word. He had a fantastic show business understanding of the audience and how to get them at it, what numbers to play and when to quit. I probably learned more from him than anyone else. Je passais vraiment beaucoup de temps avec Little Richard. Il était très amical et un grand héros. Il m'en a appris un paquet. J'allais le regarder tous les soirs, voir comment il attrapait un public. C'était un grand manipulateur de public, au meilleur sens du mot. Une fantastique compréhension show business du public. Et comment le prendre, quel morceau jouer et comment quitter. Sûr que j'ai plus appris de lui que de n'importe qui d'autre.
Reste que pour les 2 ans à venir, on sera toujours dans le Volkswagen. That's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Le Volkswagen devient l'élément principal de leur vie. On a chacun la même place, toujours. Wyman, que Stu passe prendre le premier, à la place passager. Il prétend que sinon, il vomit. Bonne farce, qui lui assure un peu de confort. Mick est entre deux. Au fond, le matériel, Kiss et Charlie sur la banquette arrière, Brian en face sur un strapontin. Charlie Watts.
Kiff et moi, d'habitude, endormis sur cette banquette à l'arrière, en se les caillant. C'est un miracle qu'on n'ait jamais pris de pouls. Je me souviens de ces boots à la Beatle qu'il avait aux pieds, avec le bout qui me cognait la figure.
Et Keith Richards?
Ça ne changeait rien. Que vous alliez à Londres, Manchester, Newcastle, Exeter, Penzance, Weston-Super-Mare, Bill était devant, impec avec Stu, et nous à l'arrière avec une fenêtre au fond et 2 prises d'air minuscules. L'Angleterre, on finit par la connaître intimement. Mais c'était une vision un peu surnaturelle, avec la distorsion à travers cette vitre arrière et ces 2 prises d'air.
Et Bill Wyman?
Si tu prenais un coin de rue trop court, tout le bazar te dégringolait sur la figure. Une fois, on a dû sortir Keith de là, parce que tout le matériel lui était tombé dessus. Il était carrément assommé.
Et Charlie Watts encore.
Stu, c'était jamais le genre précautionneux, avec personne. Alors, quand il se prenait un coin de rue, tout le matériel dégringolait. La batterie passait d'un côté à l'autre. On avait rajouté un siège, et il passait aussi d'un côté à l'autre. C'était le truc le plus dangereux dont je me rappelle. L'impression d'être le canonnier à bord d'un bombardier Wellington.
Et encore Kiss.
En voyage dans le Volkswagen, bien forcé de s'habituer à pisser à travers les grilles de ventilation. Tu grimpais sur le coffre du moteur et tu sortis la queue à travers. Stu se serait arrêté pour rien au monde. Il disait, si j'arrête rien que parce que t'as envie de pisser, jamais on y arrivera à ce bordel de concert.
C'est aussi vers ce moment-là, juin 63, qu'on déménage d'Edith Grove. Déménager, c'est un grand mot. Un vendredi soir, la propriétaire vient réclamer son loyer et découvre qu'il n'y a plus personne. Quelques couvertures, de la vaisselle sale, des fringues jamais lavées ou déchirées. Les Rolling Stones racontaient comme votre vie même. Un feuilleton de François Bon, texte dit par Judith Allison et François Bon, équipe de réalisation, Jean-François Néolier, Patrice Lecomte, Olivier De Canis et Jacques Taroni.